Bienvenue pour cette analyse des sources du jour. On a sous les yeux plusieurs articles d'Africa Press. Ils dessinent un tableau assez chargé, hein.
Oui, tout à fait.
Tensions politiques en Côte d'Ivoire avant les élections, des remous institutionnels au Ghana, nouveau gouvernement au Gabon, et puis des choses assez surprenantes sur les politiques migratoires entre les États-Unis et le Rwanda.
C'est ça.
L'idée, c'est d'extraire l'essentiel, de voir ce qui ressort vraiment et de comprendre les enjeux. Alors, on y va.
On va essayer d'explorer ces dynamiques politiques internes et aussi l'évolution des stratégies migratoires en se basant vraiment sur ces articles.
Strictement sur les articles, oui.
On va toucher à la gouvernance, au fonctionnement des institutions et aux relations internationales aussi, forcément.
D'accord. Commençons alors en Afrique de l'Ouest, avec la Côte d'Ivoire. L'opposition réunie dans la CAPCI.
La Coalition des Alliances pour la Patrie Côte d'Ivoire, oui.
Voilà, avec des noms comme Affine Guessant, Blé Goudé, Tidjane Thiam. Ils réclament un dialogue et vite avec le gouvernement. L'élection de 2025 approche.
Et le point de friction principal, c'est la commission électorale, la CEI.
Exactement. Ils contestent son impartialité et ils demandent aussi la réinscription de leaders qui avaient été radiés des listes.
Comme Blé Goudé notamment.
C'est ça. Ils prévoient même un meeting fin mai à Abidjan pour mobiliser.
C'est cette question de la légitimité des institutions électorales, c'est toujours un point sensible avant une élection majeure.
Bien sûr.
Leur demande de dialogue, ça montre une volonté d'éviter, enfin peut-être, une crispation dangereuse. Ça rappelle des tensions passées.
Et cette tension institutionnelle, on la retrouve sous une autre forme au Ghana.
Oui, au Ghana voisin. Là, l'atmosphère est, disons, électrique.
Depuis la suspension en avril de la présidente de la Cour suprême, Gertrude Torkonou, par le président Mahama. L'opposition,
menée par Alexander Afenyo-Markin.
Oui. Elle parle carrément de manœuvre autoritaire.
Oui, ils y voient une possible tentative de contrôler le judiciaire, peut-être même en vue d'une candidature pour un troisième mandat en 2028.
Ce qui serait une violation de la séparation des pouvoirs.
Clairement. Le NPP, le nouveau parti patriotique, conteste d'ailleurs la base légale même de la suspension. Ça montre bien comment les équilibres pouvaient être fragiles.
Mais est-ce que les sources donnent des éléments concrets sur cette crainte d'un troisième mandat ou c'est surtout l'interprétation de l'opposition?
Alors, les articles rapportent surtout les accusations. Hein. L'opposition et le NPP, qui contestent, ils interprètent la suspension comme une tentative de contrôle, oui.
D'accord.
Mais les sources, à ce stade, ne détaillent pas de preuves directes d'un plan spécifique pour un troisième mandat. C'est plus une vive inquiétude sur l'indépendance de la justice.
Compris. Pendant ce temps, au Gabon, c'est une autre forme de transition politique après le coup d'État. Le président de la transition, Oligui Nguema, a nommé un gouvernement plus compact.
30 membres.
Plus jeune aussi, oui. Moyenne d'âge 45 ans. Et 10 femmes, ce qui est notable.
C'est un mélange, on dirait.
Oui, un dosage intéressant. On a des technocrates comme Henri-Claude Ohima, un banquier connu à la tête d'un grand ministère de l'économie.
C'est un signal fort, ça. Oui, vu l'objectif affiché de redresser l'économie, gérer la dette... probablement avec l'espoir d'un programme du FMI derrière.
Et à côté, des figures plus loyales au nouveau régime.
Voilà. Comme le colonel Ulrich Monfoubi au transport, par exemple. C'est un équilibre.
Bon, changeons de sujet. La migration. Alors là, ça devient vraiment intéressant, je trouve. Aux États-Unis,
oui.
L'administration Trump, qui propose une approche assez inédite, $1000 et un billet d'avion aux sans-papiers pour qu'ils quittent le pays. Volontairement.
Ah oui, j'ai vu passer ça. C'est... pour le moins pragmatique comme approche.
Presque transactionnel.
Un migrant hondurien aurait déjà accepté.
Et ça s'ajoute à d'autres mesures plus restrictives, comme limiter l'accès aux banques pour ceux dont le statut est révoqué.
C'est ça.
L'objectif affiché, c'est de réduire l'immigration irrégulière par l'incitation, quoi, pas seulement par la force.
Même si les expulsions continuent.
Oui, 140 000 depuis janvier 2025, d'après les sources. Donc c'est une politique à double détente, si on veut.
Et ce qui relie ça à l'Afrique, c'est cette information, le Rwanda.
Exactement. Le Rwanda qui confirme être en discussion préliminaire avec Washington.
Pour accueillir potentiellement des migrants venant des États-Unis.
C'est ça. Et c'est d'autant plus notable que ça vient après l'échec de l'accord similaire que Kigali avait avec le Royaume-Uni.
Qui avait buté sur pas mal d'obstacles légaux et éthiques.
Tout à fait. Donc le Rwanda, via son ministre des Affaires étrangères, Ndourou Ngere, se positionne à nouveau comme un acteur.
Un partenaire potentiel sur ces questions migratoires globales. Voilà. Mais bon, ça soulève évidemment des questions. Les conditions d'accueil, est-ce que ce sera différent? Est-ce que ça fera face aux mêmes contestations?
Bien sûr. Alors, si on résume, on a un paysage assez contrasté. D'un côté, des crispations politiques internes fortes en Côte d'Ivoire, au Ghana, autour des institutions électorales, judiciaires.
Oui, des enjeux de pouvoir internes.
De l'autre, une transition politique au Gabon, avec un fort accent mis sur l'économie.
Une reconfiguration post-coup d'État.
Et puis, sur la scène internationale, des politiques migratoires qui se cherchent un peu, avec des idées nouvelles comme aux États-Unis et un rôle potentiel pour des pays comme le Rwanda.
Tout à fait. Et tout ça, ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large.
Oui.
Comment toutes ces situations nationales, que ce soit les luttes de pouvoir, la gestion économique, les négociations sur la migration, comment tout ça s'inscrit dans les stratégies plus globales des États africains ?
Bonne question.
Comment est-ce qu'ils essaient à la fois d'affirmer leur souveraineté, tout en naviguant dans ce paysage international qui est complexe et exigeant ?
Une question de marge de manœuvre, finalement.
Exactement. C'est une dynamique vraiment intéressante à suivre de près dans les mois et années à venir.